Bonjour à toutes et à tous. Pour ce Vivre ici, je me trouve avec Joanne de Canis, qui est organiste bénévole à la cathédrale Saint-Fulcran. Et on se trouve justement à côté de l'orgue. Bonjour Joanne.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez me parler de cette passion, de ce travail que vous faites bénévolement justement au sein d'une association, je crois?
Alors, c'est l'Association des Amis des Orgues de l'Audève. Ensuite, c'est vrai que je suis aussi l'organiste titulaire de la cathédrale depuis de nombreuses années maintenant, puisque j'ai commencé, si je me rappelle bien, en 1996 à jouer ici. Alors, c'est mon ancien professeur de piano, Marc, qui était organiste ici et qui m'avait proposé de venir essayer l'orgue. Et puis, en fait, je suis tout de suite tombé sous le charme d'un tel instrument, parce que c'est un instrument aux millions de possibilités, aux millions de combinaisons, et avec un répertoire tout à fait remarquable. On peut jouer absolument de tout.
Justement, vous avez aussi un répertoire juste devant vous, avec un historique de l'instrument. Non, ce n'est pas un répertoire, qu'est-ce que c'est ?
C'est le petit livret qui date maintenant, il faut qu'on le refasse, je suis en train d'y travailler. Un petit livret sur l'historique de l'instrument. Donc, comme je savais que vous alliez me poser des questions, j'ai préféré réviser un petit peu avant.
Et bien, justement, est-ce que vous pouvez nous donner un peu l'historique de cet orgue de Saint-Fulcran ?
Alors, en simplifiant énormément, c'est un instrument qui au départ avait été commandé au facteur d'orgue Jean-François Lépine, facteur d'orgue de la région, en 1751. Et il y a eu donc la construction, c'était un instrument, un grand 8 pieds comme on dit, donc de 4 claviers, mais avec beaucoup de jeux de 8 pieds, je vous expliquerai après en quoi ça consiste. Et l'orgue a été ensuite énormément modifié par Théodore Puget, facteur d'orgue de Toulouse, en 1881, qui a réduit le nombre de claviers. On est passé de 4 claviers à 3 claviers, plus pédalier évidemment, mais avec des jeux de 16 pieds, donc des tuyaux qui sont beaucoup plus longs et donc beaucoup plus graves, une octave en dessous.
Donc vous disiez que vous pouviez jouer beaucoup de répertoires. Qu'est-ce qui explique qu'on puisse jouer autant de sons avec un instrument si imposant ?
Alors sur cet instrument, on a la chance d'avoir 36 jeux, 36 registres. C'est des sonorités différentes. Alors on est à la radio, mais malgré tout, je vais essayer d'expliquer. Sur ma gauche se trouvent tous les jeux flûtés, et sur ma droite, tous les jeux d'ange, qui sont censés reproduire par exemple la clarinette ou la trompette, le hautbois, des jeux comme ça. Et du coup, c'est la combinaison de tous ces instruments. Donc là, on a 36 jeux. Or, il y a bien longtemps que je ne fais plus des maths, mais ça va être quelque chose comme 36 puissance 36, tout simplement. Combinaison pour faire des sons. Et alors ensuite, on a 3 claviers plus le pédalier, et je peux tout à fait mettre une flûte sur le clavier du bas, une trompette sur le clavier du milieu, puis des jeux gambés qui représentent un peu des cordes très douces sur le clavier du haut, et tout en faisant des sons très graves au pédalier qui représenteraient finalement la contrebasse de l'orchestre. Donc l'orgue est un instrument qui permet de reproduire l'orchestre.
Oui, et pourquoi ce besoin de reproduire un orchestre ?
Alors je suis également contrebassiste, et alors à la contrebasse, j'ai adoré faire de l'orchestre à la contrebasse, et d'ailleurs j'en faisais encore assez récemment, parce que finalement on a l'impression d'être un des éléments les plus importants de l'orchestre. Je vais m'expliquer, parce que là ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais quand vous jouez, alors, sauf si vous êtes en train de faire un solo, mais quand vous jouez des parties intermédiaires comme les violons 2 ou éventuellement les altos ou encore des instruments de l'harmonie, bon, si on les enlève, ça ne va pas changer toute la morphologie du morceau. Par contre, dans les basses, si vous enlevez les contrebasses et aussi les violoncelles, qui jouent en général une octave au-dessus de nous, eh bien, ça, tout de suite, la musique va perdre son coffre, et surtout les fondations. Voilà, les fondations de la musique ne seront plus là. Donc, et en plus, l'avantage de la contrebasse, c'est qu'on joue debout ou assis sur un tabouret haut. Et du coup, on peut distinguer et on entend bien ce qui se passe. C'était vraiment génial de faire de l'orchestre. J'étais pas perdu dans la masse des autres instrumentistes. Je pouvais distinguer autant que le chef tout ce qui se passait dans l'orchestre. Et ça, c'est superbe. À l'orgue, je retrouve un petit peu cette sensation de pouvoir gérer l'ensemble. Alors, à l'orchestre, je ne gérais pas tout, je faisais ma partie et puis voilà. Mais ici, à l'orgue, on retrouve cette sensation de pouvoir faire soi-même les choses et de faire son interprétation.
Quel type de morceau vous interprétez ? Dans quel cadre est-ce que vous jouez ? Comment vous faites résonner justement cet orchestre ?
Alors tout dépend du moment, parce que l'orgue, sa première fonction, c'est d'être un instrument liturgique pour accompagner la messe, donc ce à quoi je m'exerce depuis de nombreuses années. Et par contre, si dans le cadre d'un concert, on peut aller chercher du répertoire ailleurs, évidemment, que dans le répertoire liturgique. Par exemple, l'an dernier, tous les concerts que j'ai pu donner étaient basés sur des musiques de danse, donc Casse-Noisette, les danses Polovskiennes de Borodine, donc Casse-Noisette de Tchaïkovski, des danses de Lully, voilà, donc... Et en même temps, ben, Lully, barreau français, Casse-Noisette, c'était la musique plus proche de nous. Donc c'est très intéressant parce que le répertoire est très divers.
Et il vous arrive aussi de jouer pour des enterrements, des mariages, des cérémonies ?
Ça peut m'arriver aussi, mais c'est pas la principale partie de cette fonction.
Et je suppose qu'aussi la cathédrale, parfois justement, vous donnez des concerts comme ça pour certains événements en particulier ?
Oui, ben, comme je vous disais, là, l'année dernière, j'en avais fait un. Alors, l'an dernier, c'était que des petits concerts d'une demi-heure à l'Odève, dans le cadre des demi-heures d'orgue, parce que durant notre saison, on propose 6 concerts d'une demi-heure, et c'est pendant le temps du marché à l'Odève. Donc les gens, quand ils reviennent du marché, s'arrêtent à la cathédrale et profitent d'un concert qui n'en est pas moins de qualité, parce qu'on fait venir des organistes de très très grands talents. Je suis peut-être le moins talentueux d'entre eux. Mais bon, ceci dit, les gens applaudissent beaucoup, donc je pense que c'est qu'ils apprécient aussi. Voilà.
Quelle est la particularité de cet orgue en particulier par rapport à d'autres cathédrales ?
Alors, chaque orgue est unique, ben, okay. Parce qu'il est fabriqué par rapport au bâtiment, par rapport au bâtiment dans lequel il va être placé. Donc, cet orgue a aussi une particularité, c'est qu'il fait partie des 7 merveilles organistiques de l'Hérault, avec par exemple l'orgue de la cathédrale Saint-Pierre de Montpellier, Notre-Dame des Tables aussi de Montpellier, la collégiale Saint-Jean de Pézenas, l'orgue de l'abbaye de Saint-Guillaume-le-Désert, l'orgue Puget de Saint-Nazaire de Béziers, et l'orgue de Saint-Pons de Thomières. Donc, ce sont des orgues vraiment déjà qui ont une certaine taille, donc qui permettent beaucoup de combinaisons, et puis surtout qui sont très très beaux.
Ah oui, ça c'est sûr. Non, c'est très impressionnant. Je vous conseille en effet de vous arrêter à la cathédrale Saint-Fulcran. Vous jouez depuis 1996, c'est ça, si j'ai bien compris ?
Oui.
Depuis toutes ces années, est-ce que vous continuez encore à découvrir des choses avec cet instrument ? Ou vous continuez encore à explorer des répertoires musicaux ?
Oui, exactement. Un musicien vous dira toujours... tout au long de sa vie, qui découvre continuellement du répertoire et des nouveautés. Quand on a fait le tour, si vous voulez, d'un style, eh bien, on va aller vers un autre. Et jouer à un autre style, on va également découvrir des choses que l'instrument est capable de faire. On peut être étonné. Ah bon, ça sonne bien, je ne pensais pas que ça sonnait comme ça. Lully, musique baroque française, donc ça sonne très très bien ici. Pourtant, c'est un orgue romantique. Donc, ce n'est pas tout à fait la même esthétique, mais ça marchait bien. Voilà, donc, j'étais agréablement surpris quand j'avais essayé du Lully il y a déjà quelques années, mais et puis toujours, il y a tellement de répertoires que j'aurais passé d'une vie pour tout le jouer, de toute façon, hein. Ouais.
Vous êtes également professeur en parallèle de votre passion d'organiste et de votre titularité d'organiste, on peut dire ça comme ça. Je suppose aussi cette logique de transmission de cet instrument. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que justement c'est aussi un point d'orgue de l'association de transmettre aussi cette passion?
Alors moi, en tant que professeur, quand je suis face à mes élèves, je parle assez peu, finalement, de l'orgue. Alors, quand on découvre les instruments de musique avec les sixièmes, j'appuie un petit peu plus sur l'orgue, mais sans trop parler de liturgie, de choses comme ça. Je cloisonne quand même pas mal. Par contre, en effet, il y a des écoles de l'ODEV qui venaient régulièrement visiter les orgues de la cathédrale. Donc, les portes sont ouvertes, il suffit de me demander, et on trouvera un créneau si les écoles veulent venir visiter. Pas que l'ODEV d'ailleurs, si dans tout le département, si vous voulez venir visiter les orgues, c'était avec grand plaisir, sachant qu'à l'ODEV se trouve aussi un musée qui est très très beau, le musée Fleury, et la tapisserie des Gobelins, dans laquelle ils fabriquent des tapis pour les monuments historiques et les monuments nationaux. Voilà.
Alors là, les auditrices, auditeurs ne pourront pas entendre l'orgue parce qu'en ce moment, c'est le carême et il y a aussi des règles à respecter quand on veut jouer de l'orgue. On ne peut pas jouer quand on veut, quand on le souhaite.
Alors, on ne peut pas jouer comme on veut, quand on le souhaite et les répertoires qu'on veut. Voilà, pendant la messe, par exemple, on se restreint aussi. On ne va pas faire une sortie d'improvisation sur la musique de Peppa Pig. Voilà, ce serait mal vu, même si j'aime beaucoup Peppa Pig. Par exemple, et là, pendant le temps du carême, ben, pas d'orgue, si ce n'est pendant les offices. Et même pendant les offices, on limite. L'orgue, on joue moins fort, et puis on ne joue pas dans toutes les parties de la messe. Et quand ce sera terminé, à nouveau, on pourra faire ronfler l'instrument. Il y a des temps liturgiques à respecter.
Et à travers l'histoire, qui étaient ces musiciens d'orgue? Qui étaient choisis pour jouer de l'orgue?
Sur le plan national, sur le plan...
Par exemple, comme ici, dans l'histoire par exemple de l'ODEV, vous parliez aussi de la famille donc, des Puget père et fils, c'est ça?
Oui.
Qui jouaient de l'orgue ici?
Ils étaient facteurs d'orgue. Puget était facteur d'orgue. Alors, c'était des appels d'offres qu'il y avait. Chaque facteur d'orgue proposait son projet d'instrument, et puis c'était validé ou pas par les municipalités, et maintenant les monuments historiques, puisque maintenant l'orgue est classé monument historique depuis 1998, je crois. Je ne suis pas certain, mais il me semble. Donc il a été restauré pour la dernière fois en 2000. Et c'était la manufacture d'orgue de l'ODEV qui avait été choisie. Alors c'était bien parce qu'en plus c'était juste à côté. Donc le fait d'avoir une manufacture à quelques kilomètres, c'est très très pratique quand il y a un souci. Même pendant des concerts, une fois, on a eu un petit souci mécanique et on a appelé le facteur. Il est venu à 9h le soir nous régler le problème. Donc c'est très pratique. Donc c'est sur appel d'offres. Et quant à la titularisation des organistes, ça dépend des endroits. Si vous allez dans des grandes cathédrales de très grandes villes, c'est sur concours, évidemment. Dans les petites villes comme l'ODEV, non, j'ai pas eu à passer de concours. Bon, il fallait quand même que j'assure un minimum, que j'accompagne pas en me décalant toutes les 3 secondes. Mais voilà.
Vous êtes combien à jouer de l'orgue ici à l'ODEV?
Pour l'instant, nous sommes 2.
Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qui explique ce nombre restreint de personnes qui ont envie de se lancer dans une telle aventure?
Alors l'orgue, alors déjà on est dans une petite ville, l'ODEV, et l'orgue est un instrument, c'est quand même beaucoup moins joué que le piano, on va dire. Mais alors nous étions 3, un des organistes nous a malheureusement quitté il y a 2 ans. Là nous sommes 2, et puis bientôt un 3e organiste quand même va nous rejoindre.
Okay.
Donc on est ravis de l'accueillir.
Et vous, dans les projets futurs avec cet instrument, est-ce qu'il y a encore des choses que vous aimeriez explorer? Vous nous parliez qu'en effet, on découvre constamment son instrument à travers le temps. Quels sont pour vous les souhaits que vous auriez aussi?
Alors moi, ça fait quelques années que j'ai un petit projet en tête, ce serait de faire un concert orgue et lumière et projection, si vous voulez, avec des projections à l'intérieur de la cathédrale, avec de gros visoprojecteurs qui, vous savez, comme ils font à la cathédrale de Metz ou à la cathédrale de Reims, ils projettent sur la façade. Moi, ce serait l'intérieur de la cathédrale et tout ça synchronisé à la musique. Voilà. Donc ça fait quelques années que j'y réfléchis. J'avais même démarré un début de projet, puis finalement ça n'a pas abouti, mais je ne désespère pas. J'aimerais beaucoup donner ce genre de concert.
Est-ce qu'il vous faudrait justement, est-ce que vous faites un appel à techniciens, à des créateurs lumière pour...
Oh, pourquoi pas, oui, bien sûr, s'il y en a qui sont partants pour ce projet. Alors après, j'avais contacté les techniciens, c'était une question de coût aussi, en fait, oui, parce que la location de gros vidéoprojecteurs comme ceci, il y en avait pour 10 000 euros à peu près. Oui, donc voilà. Il faut que la cathédrale soit totalement remplie pour amortir, voilà. Donc c'est un risque à prendre. Et vu les budgets, alors bon, l'association, nous, on s'en sort bien, mais on ne peut pas se permettre de faire un écart trop grand quand même. Alors l'association des Amis des Orgues de l'Audève vit de ses rentrées grâce aux concerts. Les demi-heures d'orgue d'ailleurs sont des concerts gratuits, mais avec une corbeille qui passe, et les demi-heures d'orgue arrivent à être bénéficiaires malgré tout. Donc on est assez contents. Il y a aussi les concerts du soir qui sont eux payants. Je crois que ça varie entre 12 et 20 euros hein, les entrées. Et il y a aussi des... Vous pouvez prendre des adhésions à l'association. L'adhésion en plus donne droit à des réductions pour les concerts. Et puis on a aussi une subvention municipale qui est pérennisée depuis très longtemps. Et l'entretien de l'instrument aussi qui appartient à la ville, qui est assuré par la ville.
Quels seront justement les prochains concerts organisés par l'association, si vous les avez en tête, une fois que le carême sera terminé? Donc il faudra attendre un petit mois.
Alors pour les concerts, on aura 6 demi-heures d'orgue comme d'habitude. Alors pour en citer quelques-unes, il y aura Jean de Quint, l'organiste, qui est un organiste quand même de renommée internationale, on peut le dire, qui a été directeur du conservatoire de Montpellier et de Toulouse pendant quelques années. Il y aura aussi Luc Antonini qui va venir jouer, qui est le professeur d'orgue du Conservatoire de Montpellier. On aura, il me semble, un concert du soir avec Marie-Virginie Delorme, qui est professeure d'orgue au Conservatoire d'Avignon. Il y aura aussi l'orchestre de Montpellier qui va venir, le chœur de l'orchestre, chanter avec un petit, je crois, avec un petit ensemble musical cette année. Mais depuis 10 ans, on a essayé d'améliorer la qualité des concerts et le public l'entend. On n'a vraiment que des bons retours sur tous les concerts que nous proposons, parce qu'on choisit avec beaucoup plus de précaution tous les artistes que nous faisons venir. Alors ce ne sont pas que des concerts d'orgue, hein. Il y a beaucoup de concerts, il y a du gospel parfois, avec un piano en bas, batterie, basse, guitare, des concerts comme ça. Donc, orgue, il y aura un concert orgue et voix d'ailleurs, hein, l'année prochaine, et un concert orgue et trompette, il me semble. Voilà, pour les concerts d'orgue. Et après, si vous voulez vraiment entendre l'orgue, c'est les concerts du samedi matin qui débutent à 11h, qui terminent à 11h30, ou qui débutent à 11h30 et qui terminent à midi selon les années. Et comme je le dis souvent, les gens rentrent par curiosité, parce qu'ils entendent la musique depuis l'extérieur, quand ils passent pour aller au marché ou qu'ils reviennent du marché, puis finalement ils restent par plaisir. Et on a très très souvent des retours de gens qui disent « Ah ben je connaissais pas, c'est super !» Et alors en plus pour les concerts d'orgue, on fait ce qui se fait beaucoup, à beaucoup d'endroits, on place un écran en bas, dont les gens peuvent voir le jeu de l'organiste sur l'écran, notamment le jeu avec les pieds, qui est parfois assez impressionnant, et les gens sont ravis de voir le jeu de l'organiste. Et alors cette année on va innover, normalement, il n'y aura pas qu'une caméra qui filmera l'organiste sur le côté. On va mettre aussi une caméra derrière l'organiste, en plongée, qui permettra de voir les claviers jouer et les mains de l'organiste. Voilà, donc ça va être un petit peu plus, comment dire, en mouvement tout ça.
Découvrir aussi les coulisses, les dessous, voir jouer, ben c'est toujours passionnant en effet de voir un musicien faire son art, quoi.
Voilà, exactement. Et puis surtout, quand on entend en bas, on n'imagine pas tout ce qui se passe en haut. C'est vraiment, vous prenez une toccata de Vidor, hein, ça tricote. Hein, et les gens n'imaginent pas tout ce qui est joué comme note sur un morceau comme ça. Et alors, il y a aussi un autre point que je veux rappeler, c'est que pour les journées du patrimoine, nous faisons visiter l'orgue. Les gens qui sont intéressés doivent s'inscrire. Et il y a des visites de la tribune, là où nous nous trouvons actuellement, mais aussi de l'intérieur de l'instrument. Alors l'intérieur de l'instrument, la partie basse seulement, c'est-à-dire que là où il y a la soufflerie, la mécanique et les réservoirs d'air. Parce que la partie haute avec les 2378 tuyaux, il me semble, est un petit peu trop fragile et trop sensible, notamment aux variations de température. Donc, et puis en plus, l'échelle n'est pas terrible, donc on ne peut pas faire monter du public dans le premier étage de l'instrument. Voilà.
Mais ça doit être un peu grisant quand même de jouer de l'organe et après de jouer de l'orgue et après de revenir sur un autre instrument.
Ah ben les instruments, alors, j'ai la chance d'être multi-instrumentiste, mais je me régale sur tous les instruments. Quand on est musicien, de toute façon, il n'y a pas de souci là-dessus, on se régale sur tous les instruments. C'est des plaisirs différents en fait. Oui. Voilà, même quand je suis au piano, où il y a beaucoup moins de possibilités, ben, le côté expressif du piano que l'orgue n'a pas autant, puisque l'orgue, la touche, qu'on appuie doucement ou avec force, le son va sonner pareil. Pour avoir de la nuance sur l'orgue, on va jouer plutôt sur le nombre de registres qu'on va tirer, ici jusqu'à 36 comme j'ai dit tout à l'heure. Alors que sur le piano, ben, il n'y a qu'une seule sonorité, mais par contre elle est beaucoup plus expressive, puisqu'elle répond à la vélocité du musicien. Donc voilà, c'est encore un autre plaisir.
Oui, mais c'est assez beau aussi même de vous voir jouer. On voit que voilà, qu'il y avait vraiment, c'est un espace isolé, c'est un espace un peu confiné, c'est un espace protecteur presque.
Oui, ça c'est bien. C'est bien. Alors, moi maintenant qu'il y a la caméra, mais c'est vrai qu'on est très très souvent caché du public. Là ici, ben, on a un positif factice. Nous d'ailleurs à l'époque de l'épine, quand l'orgue avait été construit, ce qui se trouve derrière moi, tous ces tuyaux fonctionnaient. Il était beaucoup plus reculé et beaucoup plus gros. Aujourd'hui, depuis 1881, il est devenu factice. C'est-à-dire c'est juste pour décorer et cacher l'organiste. Voilà. Et puis ils l'ont laissé parce que ça allait bien avec l'esthétique de l'instrument. Mais il y a beaucoup d'orgues où il est réel, donc il y a des tuyaux. Mais il y a aussi des orgues où il n'y en a pas. Et l'organiste, par contre, très souvent, il joue avec une tribune inversée. C'est-à-dire qu'il va voir, il voit de ses propres yeux la nef. Un petit peu comme à Notre-Dame de Paris.
En quoi, par exemple, jouer de l'orgue a aussi pu affecter la manière dont vous jouez vos autres instruments ?
Ah, alors là, cette question est intéressante, je ne me l'étais jamais posée. Mais je dirais que non, ça n'affecte pas. Pareil, c'est l'orgue répond à une esthétique, à des techniques, à des façons de faire que je n'ai pas du tout à la contrebasse hein, ou pas au piano. D'accord. Non, il y a pas d'influence l'un sur l'autre. Si, alors, par contre, l'influence, elle peut être, comment dire, médicale ou mécanique. C'est-à-dire que quand je fais beaucoup de contrebasse, j'ai de la corne sur mes doigts de la main gauche, et cette corne peut parfois me gêner quand je joue de l'orgue. Voilà, parce que les doigts, j'ai plus la sensation de toucher. Voilà. Donc ça va un petit peu me gêner. Mais sinon, il y a aucune interaction.
Oui, c'est important d'avoir en effet se toucher. Non, en tout cas, l'instrument est magnifique et puis on est quand même assez haut par rapport. Voilà, il ne faut pas avoir le vertige quand on va visiter les orgues.
Oui, voilà. Alors, c'est arrivé une fois pendant les journées du patrimoine qu'une dame soit restée coincée. Je pense qu'on a bien mis une demi-heure pour lui faire parcourir la quinzaine de mètres qui permettent d'accéder à l'escalier là-bas. Bon, ça peut arriver. Alors maintenant, on prévient avant quand même, hein, on prévient bien avant. Alors en plus, l'escalier de la cathédrale et le clocher ont été rénovés, donc maintenant l'accès est beaucoup plus facilité. Donc voilà, j'encourage le public à venir nombreux au concert et à venir visiter la cathédrale qui est très belle.
Est-ce qu'on peut donner des contacts pour votre association des Amis des Orgues de l'Odève ?
En tapant tout simplement Amis des Orgues de l'Odève sur Internet, sur Google ou bien même sur Facebook, il y a une page Facebook et à partir de là, vous pouvez voir toutes les informations relatives au concert.
Oui, vous pourrez aussi retrouver bien sûr cette interview et justement les futurs concerts des Amis des Orgues de l'Odève sur notre site internet rphfm.org. Et est-ce que vous auriez une petite musique à nous conseiller que nous pourrions diffuser à l'issue de cette interview ?
Ah ouf, il y en a tellement, là aussi vous me prenez de court. Alors des enregistrements sur l'orgue de l'Odève, il y en a eu. Il y en a d'ailleurs sur le site des anciens enregistrements des années 70 faits par une ancienne organiste. Mais hors des enregistrements récents, il y en a eu aussi, puisqu'en 2000, j'ai eu la chance de faire venir, quand l'orgue avait été restauré, j'ai eu la chance de faire venir l'école des techniques audio de Sète. Ils étaient venus avec les élèves et avaient enregistré l'orgue pendant toute la journée. Donc on avait beaucoup, beaucoup joué de répertoire. Je pourrais éventuellement vous faire passer un enregistrement. Et puis ensuite, si on sort de cet instrument-là et qu'on va sur d'autres écoutes. Je veux dire, sur YouTube, il y a des milliers, des centaines de milliers de références. Alors évidemment, Pierre Cochereau, je suis un grand fan de Pierre Cochereau, qui était l'organiste de Notre-Dame de Paris et qui faisait toujours des improvisations incroyables à la sortie, assez modernes parfois, mais toujours très bien conçues, très bien construites. Enfin, je dirais le contraire, ce serait quand même présomptueux de ma part. Hein. Donc Pierre Cochereau, oui, vous tapez Pierre Cochereau, Notre-Dame de Paris, vous ne serez pas déçus.
Ouais, il faut quand même avoir de la bouteille pour pouvoir s'éloigner de la partition aussi.
Ah oui, non mais alors, par exemple, il y a une improvisation qu'il avait faite pour les obsèques du général de Gaulle sur la Marseillaise. À la sortie, il avait joué la Marseillaise, mais au départ, la Marseillaise, le thème, on en est loin, puisque c'est une improvisation. Il est parti sur un thème qui s'en rapproche, mais en passant par des techniques, la gamme Parton, en passant par des gammes, enfin tout un tas de gammes différentes, et des accords assez chargé, parfois dissonant même, et au fur et à mesure il amène ça, et au bout de je sais plus combien de minutes, il commence à jouer vraiment le thème de la Marseillaise, et avec l'orgue on va dire à fond les ballons, hein, le tutti, et là je peux vous assurer ça vous prend aux tripes, ça devait être quelque chose quand même, hein. Voilà, la Marseillaise par Pierre Cochereau, et vous voyez c'était en sortie de messe, et en effet la Marseillaise n'est pas un chant religieux, mais en sortie de messe, il avait quand même joué ce chant là, je pense qu'il avait dû demander l'autorisation avant quand même, mais voilà.
Un grand merci, Johan. Est-ce que vous voulez rajouter un mot avant de clore cet entretien ?
Ayez la curiosité d'aller écouter les orgues, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, tous les orgues de France sont différents. Et au-delà du côté religieux, même, hein, vous pouvez, par curiosité, entendre des orgues, les organistes qui répètent, qui préparent leur concert, et aller au concert aussi, parce que c'est vraiment très impressionnant. Voilà, et même les petits instruments peuvent être très beaux. Mais, par exemple, à Gignac, le petit instrument qui se trouve est superbe. Je le trouve génial. Cet instrument, il sonne très, très, très bien. Alors, il y a moins de possibilités que sur un instrument comme ça, mais il sonne très bien. Il y a plein d'instruments comme ça. Par exemple, je peux citer un autre, l'orgue de Cazou de Les Béziers, qui sonne très très bien, qui chante bien. À l'orgue, alors aussi à l'Odem, on a un deuxième instrument, un puget aussi, mais un tout petit peu plus tard, à l'église Saint-Pierre, qui n'a jamais été restauré, mais qui chante encore très très bien. Il a des sonorités merveilleuses. Alors il est en mauvais état, il est très fatigué parce qu'il n'y a pas de restauration justement, mais un orgue incroyable. Et il y en a plein, plein des instruments comme ça. Alors après, si on va sur du plus gros, ben l'an dernier, j'ai joué à la cathédrale de Nîmes, l'orgue est fantastique, voilà. J'ai joué à la cathédrale de Marvejols, ben, l'instrument était incroyable aussi, donc voilà.
Ah oui, continuez à jouer, continuez à explorer, être curieux. Et vous aussi, vous allez continuer à explorer les orgues de France. Alors.
Voilà, et être curieux surtout de ce qui a été fait avant. Parce qu'aujourd'hui, si je fais une ouverture sur ce qui se passe avec toute la musique générée par IA et toutes ces choses-là, il est important de rappeler qu'il y a quand même un répertoire qui a été fait par des humains. Et que ce répertoire, pour l'instant, est beaucoup plus riche que tout ce qui peut être diffusé par IA. Et là, je m'adresse surtout aux jeunes en disant cela. Hein, parce qu'il y a des plateformes qui se plaignent et qui sont en train de gérer ça, oui. Parce qu'il y a plus de musiques IA qui sont diffusées chaque jour que des musiques faites par des humains. Donc il faut faire attention de ne pas se tromper à un moment donné sur ce qu'on cherche vraiment.
C'est clair, privilégier l'humain. Un grand merci, Joanne de Canis, voilà, titulaire organiste à la cathédrale de Saint-Fulcran. Merci.
Merci, au revoir. Au revoir à tous les auditeurs.